Chapitre 4e. Le 26 septembre. Le château de Malouet est une construction massive et assez vulgaire, qui date d'une centaine d'années. De belles avenues, une cour d'honneur d'un grand style et un parc séculaire lui prêtent toutefois une véritable apparence seigneuriale. Le vieux marquis vint me recevoir au bas du perron, passa son bras sous le mien, et après m'avoir fait traverser une longue file de corridors, m'introduisit dans un vaste salon où régnait une obscurité presque complète. Je ne pus qu'entrevoir vaguement, aux lueurs intermittentes du foyer, une vingtaine de personnages des deux sexes, espacés çà et là par petits groupes. Grâce à ce bienheureux crépuscule, je sauvai mon entrée, qui de loin s'était présentée à mon imagination sous un jour solennel et un peu alarmant. Je n'eus que le temps de recevoir le compliment de bienvenue que Madame de Malouet m'adressa d'une voix faible mais pénétrante et sympathique. Elle me prit le bras presque aussitôt pour passer dans la salle à manger, ayant résolu, à ce qu'il paraît, de ne refuser aucune marque de considération à un coureur d'une si surprenante agilité. Une fois à table et en pleine lumière, je ne laissai pas de m'apercevoir que mes prouesses de la veille n'étaient pas oubliées, et que j'étais le point de mire de l'attention générale. Mais je supportais bravement le feu croisé des regards curieux et ironiques, retranchés d'une part derrière une montagne de fleurs qui ornait le milieu de la table, et soutenus de l'autre de ma position défensive par la bienveillance ingénieuse de ma voisine. Madame de Malouet est une de ces rares vieilles femmes qu'une force d'esprit supérieure ou une grande pureté d'âme ont protégées contre le désespoir à l'heure fatale de la 40e année, et qui ont sauvé du naufrage de leur jeunesse une épave unique, mais un charme souverain, celui de la grâce. Petite, frêle, le visage pâle et macéré par une souffrance habituelle, elle justifie exactement le mot de son mari. C'est un souffle. Un souffle qui respire l'intelligence et la bonté. Aucune trace de prétention malséante à son âge. Un soin exquis de sa personne sans ombre de coquetterie. Un oubli complet de la jeunesse perdue, une sorte de pudeur d'être vieille, et un désir touchant non de plaire, mais d'être pardonnée. Telle est cette marquise que j'adore. Elle a beaucoup voyagé, beaucoup lu, et connaît bien son Paris. Je m'égarai avec elle dans une de ces causeries rapides où deux esprits qui se rencontrent pour la première fois aiment à faire connaissance, allant d'un pôle à l'autre, effleurant toutes choses, controversant avec gaieté et s'accordant avec bonheur. Monsieur de Malouet profita de l'enlèvement du plat gigantesque qui nous séparait pour s'assurer de l'état de mes relations avec sa femme. Il parut satisfait de notre bonne intelligence évidente et élevant sa voix sonore et cordiale. « Monsieur, je vous ai parlé de mes deux cuisiniers rivaux. Voici le moment de me prouver que vous méritez la réputation de haut discernement dont je vous ai gratifié auprès de ces virtuoses. » Hélas, je vais perdre le plus ancien et sans contredit le plus savant de ses maîtres, l'illustre Jean Rostin. C'est lui, monsieur, qui, m'arrivant de Paris il y a 2 ans, me dit cette belle parole. Un homme de goût, monsieur le marquis, ne peut plus habiter Paris. On y fait maintenant une certaine cuisine romantique qui nous mènera loin. Bref, monsieur Rostin est classique. Cet homme rare a une opinion. Eh bien, vous venez de goûter successivement à 2 plats d'entremets dont la crème forme la base essentielle. Suivant moi, ces 2 plats sont réussis l'un et l'autre. Mais l'œuvre de Rostin m'a paru d'une supériorité prononcée. Ah, monsieur, je suis curieux de savoir si vous pourrez de vous-même, et sur cette seule indication, assigner à chaque arbre son fruit et rendre à César ce qui est à César. Ah, ah, voyons cela. Je jetai un regard à la dérobée sur les restes des 2 plats que me signalait le marquis, et je n'hésitai pas à qualifier de classique celui que couronnait un temple de l'amour avec une image de ce dieu en pâte polychrome. « Touché !» s'écria le marquis. « Bravo, Rostin le saura et son cœur en sera réjoui. Ah, monsieur, que n'ai-je eu l'honneur de vous recevoir chez moi quelques jours plus tôt ? J'aurais peut-être gardé Rostin, ou pour mieux dire, Rostin m'eût peut-être gardé, car je ne puis vous cacher, messieurs les chasseurs, que vous n'êtes point dans les bonnes grâces du vieux chef. et je ne suis pas loin d'attribuer son départ, de quelque prétexte qu'il le colore, au dégoût dont la preuve votre indifférence. Je crus lui être agréable en lui annonçant, il y a quelques semaines, que nos réunions de chasse allaient lui assurer un concours d'appréciateurs digne de ses talents. « Monsieur le marquis m'excusera, » me répondit Rostin avec un sourire mélancolique, « si je ne partage point ses illusions. En premier lieu, un chasseur dévore et ne mange point. Il apporte à table un estomac de naufragé, iratum ventrem, comme dit Horace, et engloutit sans choix et sans réflexion gulae parens, les productions les plus sérieuses d'un artiste. En second lieu, l'exercice violent de la chasse a développé chez le convive une soif désordonnée qui s'assouffit généralement sans modération. Or, monsieur le marquis n'ignore pas le sentiment des anciens sur l'usage excessif du vin pendant le repas. Il émousse le goût. Exurdant vinam palatum. Néanmoins, monsieur le marquis peut être assuré que je travaillerai pour ses invités avec ma conscience habituelle, quoique avec la douloureuse certitude de n'être point compris. En achevant ces mots, Rostin se drapa dans sa toge, adressa au ciel le regard du génie méconnu et sortit de mon cabinet. « J'aurais cru, dis-je au marquis, qu'aucun sacrifice ne vous eût coûté pour retenir ce grand homme. « Vous me jugez bien, monsieur, » reprit monsieur de Malouet, « mais vous allez voir qu'il me conduisit jusqu'aux limites de l'impossible. Il y a précisément 8 jours, monsieur Rostin, m'ayant demandé une audience particulière, m'annonça qu'il se voyait dans la pénible nécessité de quitter mon service. « Ciel, monsieur Rostin, quittez mon service. Et où irez-vous ? À Paris. « Comment ? À Paris ? Mais vous aviez secoué sur la grande Babylone la poudre de vos sandales. La décadence du goût, l'essor de plus en plus marqué de la cuisine romantique, ce sont vos propres paroles, Rostin. » Il soupira. « Sans doute, monsieur le marquis. » Mais la vie de province a des amertumes que je n'avais point pressenties. Je lui proposai des gages fabuleux, il refusa. Voyons, qu'y a-t-il donc, mon ami ? Ah, je sais. Vous n'aimez point la fille de cuisine. Elle trouble vos méditations par ses chants grossiers. Soit, je la congédie. Cela ne suffit pas ? C'est donc Antoine qui vous déplaît. Je le renvoie. Est-ce mon cocher ? Je le chasse. Bref. Je lui offris, messieurs, toute ma maison en holocauste. À ces prodigieuses concessions, le vieux chef secouait la tête avec indifférence. « Mais enfin » m'écriai-je. « Au nom du ciel, monsieur Rostin, expliquez-vous » « Mon Dieu, monsieur le marquis, » me dit alors Jean Rostin, « je vous avouerai qu'il m'est impossible de vivre dans un endroit où je ne trouve personne pour faire ma partie de billard. »« Ma foi, c'était trop fort !» ajouta le marquis avec une bonhomie plaisante. « Je ne pouvais pourtant pas faire moi-même sa partie de billard. J'ai dû me résigner. J'écris aussitôt à Paris, et il m'est arrivé hier soir un jeune cuisinier à moustache qui m'a déclaré se nommer Jacquemart des Deux-Sèvres. Le classique Rostin, par un sublime mouvement de gloire, a voulu seconder M. Jacquemart des Deux-Sèvres dans son premier travail, et voilà comment j'ai pu vous servir aujourd'hui, messieurs, ce grand repas éclectique dont, je le crains, nous aurons seuls apprécié, monsieur et moi, les mystérieuses beautés. » Monsieur de Malouet se leva de table en achevant l'épopée de Rostin. Après le café, je suivis les fumeurs dans la cour. La soirée était magnifique. Le marquis m'entraîna dans l'avenue, dont le sable fin étincelait aux rayons de la lune, entre les ombres épaisses des grands marronniers. Tout en causant avec une négligence apparente, il me fit subir une sorte d'examen sur beaucoup de matières, comme pour s'assurer que j'étais digne de l'intérêt qu'il m'avait témoigné si gratuitement jusque-là. Nous fûmes loin de nous accorder sur tous les points, mais doués l'un et l'autre de bonne foi et de bienveillance, nous trouvâmes presque autant de plaisir à discuter qu'à nous entendre. Cet épicurien est un penseur. Sa pensée, toujours généreuse, a pris dans la solitude où elle s'exerce un tour bizarre et paradoxal. Je voudrais t'en donner une idée. Il m'embarrassa un peu en me disant tout à coup. Quel est votre sentiment, monsieur, sur la noblesse, considérée comme institution dans notre temps et dans notre France? Il vit que j'hésitais. Parlez franchement, que diantre! Vous voyez que je suis un homme franc. Ma foi, monsieur, dis-je, j'ai pour la noblesse les sentiments d'un artiste. Je la regarde comme un monument national, comme une belle ruine historique que j'aime, que je respecte, quand elle daigne ne pas m'écraser. Oh, oh, reprit-il en riant, nous avons du chemin à faire pour nous entendre sur ce point-là. Je ne conviendrai jamais que je sois une ruine, même historique. Je vous étonnerais beaucoup, n'est-ce pas, si je vous disais que, suivant ma manière de voir, il n'y a pas de France possible sans noblesse. Vous m'étonneriez positivement, dis-je. C'est pourtant ma pensée, et je la crois sérieuse. Je ne conçois pas plus une nation sans une aristocratie classée, sans une noblesse, que je ne concevrais une armée sans état-major. La noblesse est l'état-major intellectuel et moral d'un pays. Est-elle cela chez nous? Elle a été, en d'autres temps, monsieur, tout ce qu'elle devait être, dans la mesure de la civilisation de ces temps-là. Elle a été la tête, le cœur et le bras de la nation. Elle a méconnu depuis, je l'avoue, et jamais plus cruellement qu'au siècle dernier, le rôle nouveau que lui imposait une ère nouvelle. Aujourd'hui, sans le méconnaître, elle semble généralement l'oublier. Si le ciel m'eût donné un fils, ah! Je touche là une corde toujours douloureuse dans mon cœur. Je me serais fait un cas de conscience pour moi de l'arracher à cette oisiveté boudeuse et découragée où les restes de notre vieille phalange vivent et meurent dans un vain regret du passé. Sans cesser d'être le premier par le courage, vertu ancienne qui n'a pas cessé, comme on voit, d'être utile au pays, j'aurais pris soin qu'il fût encore le premier, un des premiers du moins, par les lumières, par la science, par le goût, par toutes les expressions de cette noble activité d'esprit qui nous assure aujourd'hui notre place sous le soleil. Ah, dites-moi qu'une aristocratie doit surveiller attentivement la marche de la civilisation de son temps et de son pays, et non seulement la suivre, mais la guider toujours. Dites-moi encore, si vous voulez, qu'elle ne doit jamais fermer ses cadres à demeure, qu'elle a parfois besoin de recrues et de sang nouveau, qu'elle doit s'approprier avec choix tout mérite éminent et toute vertu éclatante. Je vous l'accorde de grand cœur, c'est mon opinion. Mais ne me dites pas qu'une nation peut se passer d'une aristocratie, ou permettez-moi en ce cas de vous demander ce que vous pensez de la civilisation américaine. C'est la seule, en effet, qui soit complètement dégagée de toute influence immédiate ou lointaine d'une aristocratie présente ou passée. Mais il me semble, dis-je, évitant de répondre directement à sa question, il me semble qu'en France, du moins, nous avons cet état-major intellectuel que vous demandez. C'est l'aristocratie naturelle et légitime du travail et du mérite. J'espère que celle-là ne nous manquera jamais. Je crois que la classer, c'est vouloir l'entraver et la restreindre. À quoi bon créer une institution quand il y a là un fait éternel de sa nature, qui se renouvelle et se perpétue de lui-même à chaque génération? Ta, ta, ta! S'écria le marquis en s'échauffant. Voilà du fruit nouveau. Croyez-vous de bonne foi qu'une nation, un génie national, une civilisation nationale, puisse naître, se développer et se conserver par le seul fait des individualités plus ou moins brillantes que chaque génération met au jour? Interrogez l'histoire, ou plutôt, regardez l'Amérique encore une fois. Les États-Unis ont, comme tous les autres États, je suppose, leur contingent naturel d'hommes de talent et de vertu. Ont-ils ce qu'on peut appeler un génie national? Quel est-il? Faites-moi l'honneur de m'en décrire un seul trait. Bon, ils n'ont pas de capitale seulement. Je les défie d'en avoir une. Une capitale n'est que le siège d'une aristocratie. Non, monsieur, non, le fait ne suffit pas. Il y a une loi qu'on ne peut méconnaître. Rien de fort, rien de grand, rien de durable sous le ciel, sans l'autorité, sans l'unité, sans la tradition. Ces trois conditions de grandeur et de durée, vous ne les trouverez que dans une institution permanente. Il faut une tribu sainte à la garde du feu sacré. Il nous faut un corps d'élite qui se fasse un devoir et un honneur héréditaire de concentrer dans son sein le culte du génie de la patrie, de maintenir, de pratiquer ou d'encourager les vertus, l'urbanité, les sciences, les arts, les industries qui composent ce que le monde entier salue sous le nom de civilisation française. figurez-vous enfin une noblesse régénérée dans cet esprit-là, comprenant son métier, ni exclusive ni banale, appuyant toujours sa suprématie officielle sur une véritable et évidente supériorité, notre société, notre civilisation, notre patrie vivront et grandiront. Sinon, non. Paris, vrai symbole aristocratique, vous maintiendra encore quelque temps. Voilà tout. Ah ah, qu'est-ce que vous répondrez à cela ?
Je vous répondrai par une question, si vous me le permettez. Comment vous comportez-vous de votre personne dans ce petit coin de la France où vous résidez ?
Mais, monsieur, je m'y comporte fort bien, et suivant mes principes, j'y suis autant qu'il est en moi, l'expression la plus élevée de mon temps et de mon pays. J'y importe le bon sens, le bon goût et le drainage. Je daigne être le maire de ma commune, je bâtis à mes paysans des écoles, des salles d'asile et une église, le tout à mes frais, bien entendu.
Et vos paysans, dis-je, qu'est-ce qu'ils font ?
Parbleu, ils me détestent.
Vous voyez, lui dis-je en riant, que l'esprit moderne ne souffle pas directement dans le sens de vos théories, puisqu'il suffit de votre qualité de noble pour fermer les yeux et le cœur de ces messieurs à vos vertus et à vos bienfaits.
Ah, l'esprit moderne, l'esprit moderne ! S'écria le marquis. Eh bien, quand il souffle de travers, il faut le redresser.
Ah, jeune homme, c'est de la faiblesse, cela.
Je vous dirai, comme Rostin, si vous obéissez servilement à ce que vous appelez l'esprit moderne, vous nous ferez une cuisine romantique qui nous mènera loin.
Or, ça, mon jeune ami,
allons retrouver ces dames et faire notre whist.
En nous rapprochant du château, nous entendîmes un grand bruit de voix et de rire, et nous aperçûmes au bas du perron une dizaine de jeunes gens sautant et bondissant comme pour atteindre, sans l'intermédiaire des degrés, la plateforme qui couronne le double escalier. Nous pûmes pressentir l'explication de cette gymnastique passionnée aussitôt que la clarté de la lune nous eut permis de distinguer une robe blanche sur la plateforme. C'était évidemment un tournoi dont la robe blanche devait nommer le vainqueur. La jeune femme, si elle n'eût pas été jeune, il n'aurait pas sauté si haut, était appuyée sur la balustrade, exposant hardiment à la rosée d'un soir d'automne et au baiser de Diane, sa tête jonchée de fleurs et ses épaules nues. Elle se penchait légèrement et tendait au lutteur un objet assez difficile à discerner de loin. C'était une fine cigarette, délicat travail de sa main blanche et de ses ongles roses. Bien que ce spectacle n'eût rien que de charmant, M. de Malouet y trouva apparemment quelque chose qui ne lui plut pas, car son accent de bonne humeur se nuança d'une teinte assez sensible d'impatience lorsqu'il murmura.
« Allons, j'en étais sûr. C'est la petite comtesse. » Je n'ai pas besoin d'ajouter que j'avais reconnu dans la petite comtesse mon amazone aux plumes bleues, qui, avec ou sans plumes, paraît avoir le même tempérament. Elle me reconnut très bien de son côté, comme tu vas le voir. Au moment où nous achevions, M. de Malouet et moi de monter le perron, laissant les prétendants rivaux se débattre et s'élancer avec une ardeur croissante, la petite comtesse, intimidée peut-être par la présence du marquis, voulut en finir et me mit brusquement sa cigarette dans la main en me disant
« Tenez, c'est pour vous. Au fait, c'est vous qui sautez le mieux. »
Et elle disparut sur ce beau trait qui avait le double avantage de désobliger à la fois les vaincus et le vainqueur. Ce fut, en ce qui me concerne, le dernier épisode remarquable de la soirée. Après le whist, je prétextai un peu de fatigue, et M. de Malouet eut l'obligeance de m'installer lui-même dans une jolie chambre tendue de perse et contiguë à la bibliothèque. J'y fus incommodé une partie de la nuit par le bruit monotone du piano et par le roulement des voitures, indices de civilisation qui me firent regretter plus amèrement que jamais ma pauvre Thébaïde.